Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de facture, simple, rapide, économique, vous propose Appel sur l'actualité. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. Comme tous les jours, RFI vous propose de commenter l'actualité et ce matin, nous lancerons le débat sur l'opération Grand Nettoyage au Burkina Faso. Sommes-nous en train d'assister à une chasse aux sorcières? En tout cas, la question se pose et vous êtes nombreux à souhaiter réagir sur l'antenne d'RFI. En tout cas, ces dernières semaines, les autorités de la transition ont limogé les patrons des sociétés publiques jugées trop proches du camp Compaoré. Samedi dernier, le Premier ministre a annoncé la nationalisation de certaines entreprises dont la privatisation sous l'ancien régime aurait été frauduleuse. Et voilà qu'en début de semaine, le ministère de la Sécurité a décidé de suspendre les activités du parti de l'ex-président, le CDP, qui se voit reprocher son regain d'activisme politique risquant, je cite, de troubler l'ordre public. Alors toutes ces décisions vous semblent-elles justifiées? Risquent-elles de compromettre la réconciliation, la fameuse politique d'inclusion promise par le président de la transition, Michel Cafondo? Vous nous rejoignez, on vous attend au standard 33 9 693 693 70 09 693 693 70 si vous nous appelez de France, et vous continuez évidemment à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de l'émission. Plus de 300 commentaires postés, j'en lirai évidemment tout à l'heure quelques-uns pour alimenter évidemment la réflexion et le débat. Mais d'abord, ce sont vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Vous connaissez le principe, hein, s'il vous manque des repères pour décrypter tous les sujets que nous abordons dans nos différents journaux, eh bien vous nous appelez. N'attendez pas d'ailleurs le début de l'émission pour le faire. Vous pouvez nous rejoindre ici à Paris tout au long de la journée. Le standard reste ouvert. Je vous redonne le numéro au cas où. 33 9 693 693 70. Mohamed nous appelle de Conakry. Bonjour Mohamed.
Bonjour Juan.
Bienvenue. Et
bonjour à tous les auditeurs de la Radio Mondiale.
Alors, vous avez-vous des questions concernant la Chine?
Oui. Le FMI affirme officiellement que la Chine, pour la première fois, dépasserait les États-Unis économiquement. Donc, j'ai des questions à ce sujet.
Oui.
D'abord, quels sont les indicateurs sur lesquels le FMI s'est basé pour dresser ce classement? Et deuxièmement, les conséquences économiques et géopolitiques de ce changement?
Alors, c'est vrai que le FMI affirme que la Chine est devenue la première puissance économique mondiale devant les États-Unis. On va essayer d'y voir plus clair avec un expert, avec Jean-François Dimiglio. Bonjour.
Oui, bonjour.
Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes le président de l'Institut de Recherche Asia Centre et vous êtes spécialiste du système financier et des pratiques financières en Chine. D'abord, expliquez-nous peut-être quelque chose qui peut vous paraître un peu trop simplet, mais que recouvre exactement la notion de puissance économique? Qu'est-ce qu'on entend par puissance économique?
Oui, effectivement, c'est une question qui a plusieurs types de réponses. En tout cas, pour commencer, je remercie l'auditeur qui a posé cette question. Ce qu'on considère comme l'outil de mesure, c'est le PIB, hein, le produit intérieur brut, c'est-à-dire la richesse produite, l'addition de la production domestique, de la consommation domestique. Et effectivement, les critères ont changé, ils ont évolué. On parlait de PNB autrefois, on parle de produit intérieur brut aujourd'hui. C'est de façon générale les différents secteurs de l'économie, l'agriculture, l'industrie, les services. On inclut les exportations et on se fie la plupart du temps à des statistiques qui sont des statistiques nationales, en particulier sur les flux d'importation et les flux d'exportation. Et dans l'occurrence pour la Chine, il y a un débat. Donc je pense que la question de l'auditeur est liée à la fiabilité des statistiques chinoises.
Alors que faut-il penser justement des chiffres chinois?
Alors ce qu'il faut penser sur des chiffres chinois, c'est surtout que les tendances nous permettent, pour autant qu'on soit parti d'une base à peu près consensuelle, de voir comment elle croît, cette économie chinoise. Donc on va plus se fier au taux de croissance, tel qu'on va le voir annoncé par la Chine et tel qu'on va le rééquilibrer en fonction de quelques paramètres que je vais décrire, que sur le chiffre brut que la Chine va publier. Parce qu'il y a des effets de change, il y a des effets de mesure, il y a des outils qui ne sont pas forcément les mêmes que les nôtres. Il faut considérer déjà que les statistiques chinoises sont considérablement améliorées dans les 10-15 dernières années. Donc on peut travailler sur des statistiques chinoises aujourd'hui, même si ce n'était pas tout à fait le cas autrefois. Ce qui nous échappe en partie, c'est tout ce qui n'est pas déclaré au fisc. La Chine est un pays aussi où il y a pas mal de revenus gris. Donc la question qui reste, c'est est-ce que ce PIB, il est sous-estimé ou surestimé ?
Et selon vous ?
Il est probablement sous-estimé en réalité. Ah. Curieusement, il est probablement sous-estimé à cause des revenus gris et tout ce que le consommateur chinois, le travailleur chinois ne déclare pas forcément. Donc on ne peut pas probablement imaginer que la Chine surestime pour dire nous sommes la puissance mondiale. Le FMI valide d'ailleurs ça. Alors il y a des paramètres qui permettent aussi de revérifier ça, de revalider en particulier la consommation électrique. La consommation électrique, c'est l'un des indices les plus fiables pour mesurer la croissance, le taux de croissance, la comparaison entre une économie et une autre. Donc on va partir de ce principe. La Chine est effectivement aujourd'hui en chiffre brut et pas du tout en parité de pouvoir d'achat comme on l'utilise parfois, donc en vrai chiffre, probablement au-dessus des États-Unis. Alors simplement, après, les questions qui se posent, c'est comment ça se passe par habitant. La Chine a 5 fois plus d'habitants, entre 4 et 5 fois plus d'habitants que les États-Unis. Et au-delà donc de cette division par le nombre d'habitants, vous allez avoir des écarts de richesse et le coefficient de Gini, c'est-à-dire comment est-ce que se répartit la richesse entre les habitants. Alors en Chine, on sait que c'est beaucoup plus inégal que dans beaucoup de pays, qu'en particulier les États-Unis qui seraient le deuxième PIB aujourd'hui, mais aussi par rapport au Japon qui est le troisième PIB.
Et vous diriez que cette tendance risque de s'accroître, de s'accentuer dans les prochaines années, que la différence entre la Chine et les États-Unis sera de plus en plus importante et que la Chine sera effectivement numéro un encore pendant de nombreuses années ?
Oui, alors un pays émergent, à un moment ou à un autre, surtout de la taille de la Chine, peut-être demain aussi l'Inde, il a tendance à rattraper des pays qui sont très mûrs en termes d'âge, en termes d'histoire de croissance et qui ont des taux de croissance largement inférieurs aux 5% qu'on pronostique pour la Chine dans les années qui viennent. Donc oui, cet écart va se creuser.
Ouais. En deux mots, pour répondre à la deuxième question de Mohamed, les conséquences géopolitiques de ce changement.
Alors ce changement, et c'est pas lui qui va déclencher des conséquences nouvelles. Les conséquences, elles sont là depuis une dizaine d'années. La Chine est le premier importateur de matières premières en tout genre dans le monde. Donc c'est lui qui effectivement va avoir un impact en cascade sur pas mal de prix de matières premières, mais aussi sur les attentes de croissance mondiale. Parce que la Chine représente aujourd'hui à peu près 15% du PIB mondial. Donc dès que la Chine va tousser, effectivement, ça va avoir un impact. Maintenant, s'il s'agit d'un importance géopolitique, comme la question de Mohamed le suggérait, elle est encore très faible. Elle est encore très inférieure à cette place, et ça va durer pendant très longtemps. L'armée chinoise n'a pas de capacité de projection, elle s'équipe très rapidement, mais la Chine est une puissance régionale aujourd'hui. Un peu comme les États-Unis, au sortir, on va dire, des guerres de la fin du 19e siècle, alors que les États-Unis étaient en train de devenir la puissance économique mondiale. Et c'est la guerre de 14 qui va vraiment faire sortir les États-Unis de leur isolement américain, on va dire.
Merci beaucoup Jean-François Di Meglio, président de l'Institut de Recherche Asia Centre. Voilà Mohamed pour vos explications. Vous souhaitez évidemment une bonne journée à Conakry, 9h19 à Paris. Ce sont vos questions, toutes vos questions nous intéressent, donc n'hésitez pas, aucune question ne nous semble stupide, inintéressante, au contraire, on apprend aussi grâce à vos questions. 33 9 693 693 70. On va s'intéresser maintenant à la mobilisation de l'opposition au Bénin, avec Gaston qui nous appelle de la région parisienne. Bonjour Gaston.
Oui, bonjour.
Bienvenue, on vous écoute.
Voilà. Et la semaine dernière, il y a eu des manifestations à Cotonou pour réclamer des élections, pour que les élections aient lieu et à bonne date. Voilà. Et à ce propos, je voulais savoir pourquoi l'EPI, la liste électorale en question, n'est toujours pas corrigée.
Ouais.
Et de deux, qu'est-ce que le camp présidentiel répond à l'opposition Et puis de trois, quels sont les recours que l'opposition a actuellement pour qu'on aboutisse à des élections crédibles avec des résultats incontestables.
Des élections qui se font attendre, hein, et vous parlez des élections municipales, communales et locales, qui effectivement étaient initialement prévues en mars 2013, et à ce jour, eh bien, personne ne sait quand se tiendront ces scrutins. Bonjour Delphine Bousquet.
Bonjour Juan, bonjour Gaston.
Merci d'être avec nous, vous êtes la correspondante d'RFI à Cotonou. C'est vrai que pour justifier ces reports, les autorités invoquent les retards dans la mise à jour de la LEPI. Gaston en parlait à l'instant, la LEPI c'est la liste électorale informatisée qu'il faut corriger puisqu'il y a un certain nombre d'imperfections hein, sur ces listes électorales. Comment expliquer que la LEPI n'ait toujours pas été corrigée alors qu'il est ?
Eh bien, Gaston, c'est dû à deux raisons. D'abord, au cadre législatif qu'il a fallu créer pour pouvoir corriger la LEPI. Ça ne se faisait pas comme ça. Et puis ensuite, au problème de financement de cette correction. Alors, il faut se replacer dans le contexte. La LEPI a servi aux élections législatives et présidentielles de 2011, présidentielle remportée dès le premier tour par le président sortant Thomas Boniali. Et au lendemain de ces scrutins, il y avait au Bénin un climat de forte tension politique, des résultats contestés. L'opposition estimait qu'un million d'électeurs avaient été oubliés. Une mission de la francophonie est venue et a fait des propositions parce qu'il fallait à ce moment-là apaiser les esprits. Les parlementaires ont travaillé et ils ont voté fin décembre 2012 une loi permettant de corriger la LEPI et instituant l'organe qui allait être chargé de cette actualisation, le Conseil d'orientation et de supervision de la LEPI, qu'on appelle le COF-LEPI. Cet organe n'a été mis en place qu'en mai 2013, avec 5 représentants de la majorité présidentielle, 4 de l'opposition et 2 techniciens. Donc vous voyez, Gaston, on était déjà en mai 2013, alors que les élections municipales, communales et locales devaient avoir lieu au premier trimestre de cette même année.
Oui, en mars, hein, pour être plus précis. Et à partir de là, Delphine, il y a eu des problèmes de financement de la correction.
Ben oui, parce que cette correction a un coût. Il faut du matériel, il faut former des agents, il faut traiter les données. Et ce coût doit être pris en charge par le budget national. Alors ça a donné lieu à une querelle entre le COF-LEPI et le gouvernement. Le premier accusant le second de donner des fonds au compte-gouttes, ce qui ne permettait pas au COF-LEPI de travailler. Et le second reprochant au premier d'en demander toujours plus, de demander toujours plus d'argent. Alors il faut savoir qu'il y a eu une première phase de correction en avril dernier, qui devait durer 2 semaines et qui a été prolongée d'une semaine. Et puis récemment, en novembre, seconde phase de correction, et même chose du retard dans les opérations qui ont été prorogées et ça a duré 1 mois, donc forcément, à chaque fois, cela augmente le coût. Et puis c'est tout le temps qui part dans la mise à jour de la liste. Alors le COF-LEPI avait annoncé en août dernier que la liste serait prête le 30 novembre. Et puis en octobre, le COF-LEPI a annoncé qu'elle serait prête le 17 décembre. Le 17 décembre, Juan, c'est aujourd'hui, mais oui. Ce n'est pas prêt.
Ce n'est toujours pas prêt, donc le débat n'est pas prêt de s'arrêter. Que propose concrètement le camp présidentiel pour débloquer cette situation, pour sortir de l'impasse électorale ?
Il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre sur l'organisation des élections au Bénin. Ce n'est pas le ministère de l'Intérieur, donc le gouvernement qui s'en occupe. Depuis 1995, c'est une commission électorale nationale autonome qu'on appelle la CENA, même si c'est le gouvernement qui finance les élections. Alors le processus est le suivant, on le COF-LEPI à la liste quand elle est prête, il la transmet à la CENA qui informe le président qui peut alors convoquer le corps électoral. Dans la situation actuelle, le gouvernement dit qu'il ne peut rien faire tant que la LEPI n'est pas prête. Ce qu'il propose pour permettre d'aller aux élections rapidement, quand la liste sera disponible, c'est de réduire les délais électoraux. Selon le nouveau code voté en novembre 2013, code électoral, le chef de l'État doit convoquer le corps électoral 90 jours avant la fin du mandat en cours. Donc il faudrait que les députés votent une mesure dérogatoire pour raccourcir ce délai. Mais le problème, c'est que concernant les maires, en fait, on ne sait pas quand leur mandat prendra fin, puisqu'ils sont toujours en poste, il n'y a pas eu d'élection, leur mandat était déjà terminé. Alors en 2015, il doit y avoir des élections législatives, et là on sait que le mandat des députés prend fin en mai. Mais la proposition du gouvernement est discutée, car beaucoup estiment que c'est dangereux de toucher à des dispositions électorales qui n'ont encore jamais été appliquées, et que c'est ouvrir la porte à des modifications à tout va.
On suivra ça de près, à mon avis, on en reparlera vendredi dans la Libre Antenne. On a déjà eu l'occasion d'en débattre avec les auditeurs en début de semaine. Merci beaucoup Delphine Bousquet en direct de Cotonou. Gaston, bonne journée en région parisienne. Des questions concernant l'épidémie d'Ebola. Jacarija, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Gomez.
On vous écoute.
Oui. En fait, les hôpitaux suisses ont suspendu de tester le vaccin à virus Ebola. Cela dit, des volontaires se plaignaient des douleurs articulaires qu'ils sentaient deux jours après le vaccin. En effet, mes questions sont de savoir, y a-t-il eu des réactions similaires dans d'autres pays où le vaccin est en cours d'expérimentation? Si oui, quelles dispositions ont été prises et comment a-t-elle réagi l'OMS? Quel impact
bon,
cette
ça fait beaucoup de questions, hein, Jacarija. Mais c'est vrai qu'elle est intéressante, elles sont intéressantes. On a appris il y a quelques jours que les hôpitaux universitaires de Genève ont interrompu des essais cliniques sur un vaccin contre Ebola. Bonjour, Joanne Liu.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct d'Amsterdam. Vous êtes la présidente de Médecins Sans Frontières. Que s'est-il passé? Pourquoi les hôpitaux de Genève ont suspendu ces essais, ces tests cliniques?
Ces tests cliniques ont été suspendus parce que c'était un effet secondaire qui n'était quand même pas anticipé. On savait que le VSV, le vaccin qui était sous étude, causait de la fièvre quelques jours après la vaccination. On n'avait pas cette information-là sur les douleurs articulaires. Donc, pour l'instant, c'est de mettre en suspension l'étude pour voir si les patients qui ont reçu des vaccins vont développer aussi d'autres symptômes et pendant combien de temps les symptômes actuels ou d'autres symptômes peuvent se développer.
Mais ce vaccin est testé dans d'autres pays en ce moment?
Oui, mais pour l'instant, on n'a pas d'autres informations, malheureusement, à partager. Moi, je n'ai pas encore eu de publication, malheureusement.
Et cette interruption, elle risque de retarder le développement du vaccin canadien ou pas?
Ça, c'est difficile à savoir. Ça va vraiment dépendre comment les prochaines semaines vont se dérouler par rapport aux symptômes chez les volontaires qui ont eu le vaccin.
En tout cas, ce qui est important, peut-être pour rassurer nos auditeurs, ceux qui nous écoutent en Afrique de l'Ouest, c'est que d'autres vaccins sont testés aussi en ce moment, hein, des vaccins notamment américains et dans plusieurs pays à travers le monde.
Oui, avec un qui est présentement testé, celui de GlaxoSmithKline aux États-Unis, et qui, on pense, va pouvoir être testé en Afrique de l'Ouest. On espérait qu'il soit testé d'ici la fin de l'année, mais présentement, on a la difficulté par rapport à finaliser le protocole d'utilisation du vaccin. Et donc, on espère dans le premier trimestre de 2015, tout sera prêt pour tester le vaccin.
Joanne Liu, présidente de Médecins Sans Frontières, reste encore avec nous. Autre question, à Bali, bonjour.
Ouais, bonjour Juan et bonjour aux auditeurs de RFI.
Vous êtes à La Rochelle et vous avez une question également sur Ebola.
Ah oui, c'est ça. En fait, il y a un rapport publié par les médecins qui stipule qu'on peut mieux soigner la maladie. Donc concrètement, quels sont les dispositifs des soins envisagés pour enrayer ou bien du moins se canaliser l'épidémie?
On a peu de temps, Joanne Liu, juste pour préciser, il ne s'agit pas d'un rapport, hein, c'était une tribune publiée récemment dans une prestigieuse revue, la revue The Lancet, et ce sont deux médecins qui affirment que les centres Ebola doivent faire plus que mettre en place des quarantaines. Vous en pensez quoi, vous, en tant que présidente de Médecins Sans Frontières?
La revue Lancet, ses propos sont tout à fait justifiés et je crois que ce qu'elle met en lumière, c'est la prise en charge précoce de la réhydratation chez le patient qui est atteint et infecté d'Ebola. Et donc, il y a eu une période pendant l'épidémie où notamment, quand nous, Médecins Sans Frontières, on a fait la sortie en septembre aux Nations Unies, disant qu'on était tellement occupés, que c'était tellement débordé, les chaînes de transmission d'Ebola étaient telles qu'on refusait les patients et qu'à quelque part, dans nos centres, on était restreint à faire vraiment le minimum, même voire seulement des soins palliatifs. C'est ce que j'ai dit dans ma tribune du 2 septembre aux Nations Unies. Et on appelait à d'autres acteurs pour pouvoir améliorer les soins, pour pouvoir justement faire plus que juste l'isolement des patients. Donc, la question est à fait à propos. Nous, on a
recommencer à donner des soins qui sont plus que seulement l'isolement. Mmh. On a toujours donné de l'ORS, donc des sels de réhydratation orale, mmh. mais les intraveineuses, les remplacements des électrolytes et des sucres, mmh. Un monitoring biologique oui. Sanguin, un monitoring
donc, au chevet du patient. Donc vous avez changé vos méthodes. Merci beaucoup Joanne Liu, présidente de MSF.